Pose ta tête.
Pose ta tête, l'émission qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête, c'est l'émission
ta tête.
Qui laisse passer la lumière. Qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête.
Pose ta tête, c'est l'émission qui laisse passer la lumière.
Bonjour, chers amis et fidèles auditeurs de Pose ta tête. Aujourd'hui, on parle d'éco-anxiété. Voici l'équipe. Sophie.
Bonjour.
James.
Bonjour.
Émilie.
Bonjour.
Félix.
Bonjour.
Et Laurent.
Salut Laurent.
Salut Laurent.
Bonjour, bonjour.
Monsieur
c'est
parti.
C'est parti.
Pose ta tête. L'émission qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête.
Alors l'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est ? Dans le magazine Biocontact numéro 364, ils la définissent comme ça. C'est un état émotionnel d'inquiétude par anticipation avec une notion d'impuissance face à l'imprévisibilité des changements environnementaux. Ici au GEM, on en parle de temps en temps, alors pas toujours en ces termes, mais oui, on s'inquiète parfois pour l'avenir de la planète et ça joue sur nos discussions, mais aussi parfois sur nos envies de projets à long terme. On va voir ça ensemble avec nos invités. Mais pour l'instant, on commence avec la rubrique de Félix, qu'est-ce qu'on bouge ? Il parlera de la 4e édition de Vendôme à vélo et d'un tournoi nocturne de volleyball.
Puis Émilie, dans sa rubrique court-circuit, nous présente des acteurs du Vendômois. Dans ma rubrique livre, deux histoires à découvrir. James, dans sa rubrique sur la tête de ton réseau, nous présentera Blandine, qui travaille au SAGE, qu'on vous a déjà présenté. Mais aujourd'hui, elle vient nous parler du sujet de l'éco-anxiété et de ce qu'elle pense de l'impact de la nature sur nous. Puis dans la rubrique « La santé mentale n'est pas un gros mot », nous aborderons avec Laurent plus amplement le thème de cette émission, l'éco-anxiété avec les étudiants et professeurs du lycée agricole de Vendôme. Et c'est parti pour Pose ta tête numéro 6.
Alors il est temps de « Qu'est-ce qu'on bouge ?» À toi Félix.
Qu'est-ce qu'on bouge ? Qu'est-ce qu'on bouge ? Qu'est-ce qu'on bouge ? Qu'est-ce qu'on bouge ?
Venez participer à la 4e édition de Vendôme à vélo, le 14 et 15 juin 2025, ainsi qu'au challenge souvenir de Pierre Casalière et la concentration Louis Geffredo, organisé par l'USB Cyclotourisme, Union Associative, un challenge ouvert à tous, cyclistes passionnés, collectionneurs, nostalgiques des vélos d'antan ou simples curieux. Vous trouverez votre bonheur lors de ce rassemblement familial et populaire. Monocycle, tricycle, Rosalie, vélo, fleuri, vélo rigolo, vélo électrique, vélo à contre-la-montre, monocycle, vélo à roulettes, tandem. Tous auront leur place dans ce grand rassemblement, célébrant la petite reine sous toutes ses formes. Vous pourrez également participer à une randonnée gourmande qui aura lieu les mêmes dates. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site vendomeavelo.fr. Le même week-end, pour les passionnés de volleyball, le club de l'USV Volleyball organise son tournoi nocturne sur herbe annuelle. Il se joue par équipe de 3 contre 3, masculin, féminin ou mixte. Il est accessible aux joueurs de niveau loisir au pré-national et aura lieu de 18h à 2h le 14 juin au Grand Pré.
On s'appelle l'émission qui laisse passer.
C'est maintenant l'heure de la rubrique court-circuit dans laquelle on vous présente des artistes du Vendôme.
Court-circuit. Le circuit court des artistes du Vendôme.
J'écris pour faire plaisir à beaucoup. Pour m'emmerder le cousin. D'accord. Mais c'est la même chose. C'est ce que j'ai prévu à faire.
Court-circuit.
Salut Jam, est-ce que tu vas bien déjà ?
Oui, très bien, très bien. Salut Émilie.
Je te laisse te présenter, qui es-tu et d'où tu viens ?
Alors moi c'est Alexis, alias Jam, du coup c'est mon nom d'artiste. Et je suis un artiste vendômois, graffeur de spécialité. Et voilà, je suis plutôt impliqué dans les événements culturels d'ici et d'ailleurs. Voilà. Mmh. Et puis voilà, j'aime le graphe particulièrement, l'énergie de la culture hip-hop. Qui intègre justement le graphe, la danse et la musique.
Ok. Tu as participé à État des lieux 2, il me semble.
Tout à fait. Ouais. J'ai fait le 2. Mm-hmm. Et j'ai fait aussi la première édition, du coup, le 1. Tout à fait, qui était dans les Rottes. Okay. Et là, État des lieux 2, qui se situe à côté du cinéma de Vendôme.
Ok. C'est quoi tes influences ? Qu'est-ce qui te motive quand tu crées ? Qu'est-ce qui te motive dans ce que tu fais ?
Alors, ce qui me motive, c'est l'énergie du mouvement hip-hop, en fait, parce que c'est une grosse énergie. Le graphe s'intègre dans ce mouvement. Il y a du rap, il y a de la musique, il y a de la danse, c'est un gros mouvement. Et j'aime le graffiti et ça me motive parce que je trouve que c'est quelque chose de fabuleux. Dans les rencontres, dans tout ce qui s'en dégage, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Je suis un artiste depuis que je suis tout petit. Ça m'a toujours motivé. Le graphe, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné. C'est une vraie passion dans la vie.
Est-ce que tu as vraiment des graffeurs qui ont marqué ton parcours
Ouais. Alors moi, je me suis surtout intéressé à ce mouvement-là à travers des magazines qu'on trouvait il y a très très longtemps dans les bureaux de tabac. C'est Graph Bombs.
Okay.
Et qui recensait beaucoup d'artistes. J'ai des noms style Banksy, lui qui est très artiste contemporain. Ou Gutter, ça c'est un nom que peu de monde connaît, mais si tu es dans le milieu, tu peux connaître. Parce que c'est quelqu'un, il fait des graphes très, très difficile à comprendre comment il fait ses graphes. C'est quelque chose technique, très D'accord. technique. Beaucoup de traits, beaucoup de... Ensuite, un artiste qui est connu dans le milieu, qui est Dark Elixir. Pareil, avec un visuel assez frappant dans ses œuvres. Et puis la musique, la musique qui m'entraîne dans mes créations, le style en découle surtout en fonction du style de musique. Quand je graffe, la musique m'entraîne vachement. Quelque chose de violent, je vais dessiner quelque chose d'assez péchu, quelque chose d'assez violent. Et puis après, autour de ça, il y a la passion, le contact avec le social, le partage. Et puis l'énergie qui est assez folle, parce que dans un contest graffiti où on réunit plein de graffeurs, il y a de la danse, ça vit, ça chante, c'est très bon vivant, c'est très convivial. On entend beaucoup les graffeurs, c'est vraiment des franches compagnies, c'est vraiment cool. On s'amuse à ça, on rigole toute la journée, c'est assez cool. Et puis c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Passion, c'est une vraie passion, c'est quelque chose que depuis tout petit, vraiment, j'ai commencé à 12 ans, on va dire.
D'accord.
Donc ça fait une dizaine d'années déjà que je fais ça.
Ok.
Donc ça date. Après, il y a eu des périodes de moins et des périodes de plus.
Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer?
Moi, j'ai confiance en soi, très important, d'avoir confiance en ce que tu fais et de travailler le dessin. De travailler les bases et puis d'être de se lancer, en fait, de pas avoir peur. Souvent le graffiti, ça peut faire peur parce que ça s'est démocratisé assez récemment. Avant, c'était quelque chose de vandale, les gens ils prenaient ça pour des choses très obscures, très underground, et aujourd'hui ça part dans les musées, ça commence à prendre forme, les gens le regardent moins avec cette idée de quelque chose de marginal. Et donc moi je pense que l'idée de pour se lancer là-dedans, il faut avoir confiance. Et puis il faut se libérer, quoi. Pas avoir peur, parce que j'ai déjà rencontré des petits jeunes du lycée Ronsard qui me disaient comment faire, etc. Je leur dis t'achètes des bombes de peinture, tu dessines et t'y vas.
On a l'habitude dans cette rubrique de demander aux artistes s'ils ont trois personnes du Vendômois dont ils veulent nous parler. Du coup, je te pose la question.
Non, je n'ai pas envie de répondre à cette question. Je partirais plutôt du principe que ce n'est pas des personnes qui m'ont inspiré de la région, mais plutôt des lieux dans lesquels j'ai évolué et que j'ai appris à graffer. Exemple, on a le skatepark de Vendôme, qui est auprès au chat. Pareil, ce lieu-là, j'ai appris à danser sur la halfpipe. Je passais des après-midi à m'entraîner sur le high pipe. Je me suis entraîné un nombre de fois incalculable sur le mur. Il est tout petit. Donc en fait, il faut aller à l'essentiel, quoi. Donc travailler vachement sur ce mur. Petit mur qui sert aussi de rampe pour les skateurs. Ensuite, j'ai aussi un autre mur, le mur du lycée Ronsard, le mur des maillettes. Il y a un grand mur derrière où on fait du tennis, du tennis sur lequel on joue au tennis dessus. Il y a Noah aussi qui est passé à cet endroit. Et puis derrière, juste derrière le lycée Ronsard, en face de l'ancienne piscine des Maillettes, il y a un grand mur. Et ce grand mur-là, il est entièrement graffé.
Okay.
Et j'ai passé des journées là-bas.
Dessus.
Ouais. À graffer, à peindre, à chercher les proportions, à m'entraîner justement avec les proportions, à prendre le mur de son ensemble, chose qui n'est pas forcément évidente. Voilà, et puis après, bah, Vendôme, c'est un endroit assez sympa. Mmh. Donc voilà, il y a de la musique, il y a des événements. C'est... Et puis niveau street art, bah, la mairie a plutôt confiance au graffeur vendômois.
Ouais.
Donc voilà. Et puis bah, mon mentor, qui est incognito évidemment, voilà, qu'a David, je cite son nom même s'il n'aimerait pas. Mais
on
j'adore, je fais un grand big up.
Rubrique,
grand big up à David, qui est le mentor du Vendômois, qui nous a tous un peu mis la main à la patte quand on était plus jeunes.
Ouais. Qui vous a donné confiance aussi.
Ouais, voilà, qui nous a donné confiance et l'envie aussi d'apprendre ce truc-là qui est assez unique. Et on est devenus amis avec le temps. Et puis c'est cool. On se donne des challenges un peu mutuellement, c'est assez cool.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu as une actu
Et bah, après, plutôt peut-être ma prochaine intervention qui sera à la GEM.
Ouais,
évidemment.
Au GEM.
Ouais. Où on va refaire toute une fresque bah, accompagnée de.
Oui, c'est vrai, tout un mur avec toi. Un mur qui mène au jardin.
C'est ça.
Sur un stage de graphe, ouais.
Exactement, on va faire une grosse déco. J'ai déjà dessiné en amont un peu ce qu'on pourrait éventuellement faire dessus. Et puis voilà, il y a ça. Ensuite, je ferai une intervention, évidemment, à Crissé-sur-Mont cette année, dans Artiste Village, qui intègre aussi Graffeur au Château. Donc, on va graffer dans un cadre assez unique, qui est un château, le cloître d'un château. Et puis, on va, voilà, sur des supports.
Ouais.
Donc, voilà.
Qui seront à vendre, je crois. Après,
à vendre ou à voilà, gagner. Mm-hmm. Et puis, voilà, sinon, bah, venez de temps en temps au mur des maillettes. Parce que de temps en temps, il y a des œuvres qui se créent. Et je crée de plus en plus sur ce mur, voilà, c'est un peu un terrain de jeu. N'hésitez pas.
Ouais. Bah, merci beaucoup.
Et puis
à bientôt, de toute façon, pour le stage.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Salut, Jam.
Ciao, ciao.
Alors, pour ce court-circuit du mois de juin, je voulais vous présenter Troy. Troy, il est dans le Vendômois, il fait du son depuis 3 ans. Il a un projet en cours qui s'appelle QV2T, quelques verres de trop. Vous pouvez le trouver sur Instagram et surtout, vous pouvez le retrouver à Gare à la Rochette le 14 juin. On va écouter son premier titre, Reine de Pique.
J'ai toujours méprisé les peines de cœur pathétiques. Les nuits sont noires comme les discours où y a pas d'éthique. Pour cacher un si beau visage derrière un sourire maléfique. Comment peut-on passer de la reine de cœur au valet de pique? On faisait la paire, on était censé gagner. J'ai pas pensé à perdre comme un joueur de foot sans ses gammes. Je pensais y faire le vide, mais j'y ai fait le plein de coups durs pour me faire battre à plate couture. Merde. Et je me dis que tu peux faire mieux que de mettre un cœur en miettes. Qu'on aurait pu se comprendre sur un stop comme si t'étais mienne. Et on en parlait même hier de l'époque de ces années nocives. Parce que tu te savais fautive, donc c'est plus facile de nier. Et j'ai pas pensé à freiner. Ça je sais, j'ai deviné où ça menait. Je t'ai demandé si tu m'aimais. Tes mimiques et ton silence traduisaient certains noms. Mais de sentiments différents, j'avais un certain nombre. On passait notre après-midi corps contre corps à regarder le 12-13. Bizarre de mater l'actu pour calmer tout le stress. Si je te mens, parle-moi, je veux pas de hurlements. J'ai arrêté la cam, j'ai eu ma dose de problèmes surmenants. Tu parles d'un effet surprenant. Pleurer me le fait, tu sais, quand je suis au lit, mais que je pourrais me lever. Maintenant, les beaux jours sont en maintenance, je souriais quand il pleuvait. T'as tout mis sur le tapis et t'as préféré bluffer. Je savais qu'on se laisserait, je reconnais mes torts sans faire exprès. Et j'espérais que c'en resterait. Là, reposé sur une chance infime, j'imagine l'amour dans un film où tu n'étais qu'un simple extrait. Trailer gâché, sans faire d'histoire. Où y'avait quel jeu, saurais crier victoire. En jouant n'importe quel jeu, je pourrais faire partie de toi. Maintenant que je ressens quelque chose, j'aurais pas dire quoi. J'aurais pas dire quoi. Pour cacher un triste visage derrière un sourire maléfique. Merde, je passe du roi de cœur au valet de pique.
C'est maintenant le tour de Sophie de nous présenter sa rubrique Le bonheur de Sophie. Vas-y Sophie.
Les bonheurs de Sophie.
Hello,
voici ma rubrique Les bonheurs de Sophie. Aujourd'hui, j'ai 2 livres à vous présenter. Le premier roman qui s'intitule Loveless de Alice Osman aux éditions Hachette Roman nous raconte l'histoire de Georgia, une jeune adulte qui est à l'université de Durham. Elle fait partie d'un super groupe d'amis avec Pip et Jason. À l'université, elle partage sa chambre avec Rooney qui va elle aussi faire partie de la bande. Tout le long du roman, nous suivons Georgia dans sa quête de savoir son orientation amoureuse, amicale ou sexuelle. En effet, à 17 ans, elle n'est jamais tombée amoureuse, ni baiser, ni relation intime, encore moins d'ailleurs. Elle va rencontrer des personnes qui vont l'influencer et l'aider à comprendre sa situation. Asexuelle, bigenre, aromantique, gay ou simplement hétéro, elle va faire ses expériences pour tenter de se trouver. J'ai beaucoup aimé ce livre qui se tourne vers les difficultés des adolescents ou jeunes adultes. Cette quête d'identité est courante chez les jeunes. La société et le regard des autres ne les aident pas à s'affirmer, même si nous sommes différents. Le second livre est « Le temps des cerises » de Nicolas Barreau aux éditions La Loupe. Aurélie est chef dans son petit restaurant qui s'appelle « Le temps des cerises ». Le soir de la Saint-Valentin, elle reçoit un appel lui informant que son établissement gagne une étoile au guide Michelin. Elle est folle de joie et n'en revient pas. Son amoureux, André, souhaitait la demander en mariage ce soir-là, mais il sait que ce n'est pas le moment. Fausse joie, erreur du guide Michelin, l'étoile est décernée à un autre restaurant qui porte le même nom. Aurélie et André vont vivre des moments difficiles suite aux événements qui vont se dérouler dans leur vie, mais aussi des moments de bonheur. Nous apprenons entre autres l'origine de l'omelette et diverses recettes de cuisine. C'est un livre gourmand. Ce roman m'a beaucoup plu et je ne vous en dis pas plus. Ce livre est une lecture confort qui est écrit en gros caractères. Voilà, voilà, ma rubrique se termine là-dessus. Alors je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao, ciao.
On écoute maintenant ma rubrique sur la tête de ton réseau, où je vous présenterai Blandine du Sage.
Vas-y James, c'est à toi.
Bienvenue sur la tête de ton réseau.
Sur la tête de ton réseau. Bien, bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, je suis exalté de recevoir Blandine du Sage. Bonjour Blandine.
Bonjour James.
Alors, dans un premier temps, présente-toi.
Bonjour, du coup, je m'appelle Blandine. Je vis depuis une bonne quarantaine d'années sur la planète Terre, que je partage avec environ 8 milliards d'habitants. J'aime le chocolat, j'aime le jardinage, et puis je suis un tantinet sensible à l'état de la planète et aux inégalités.
D'accord, très bien. Pour la première question, j'aurais voulu savoir, dans ton parcours professionnel, as-tu côtoyé une ou des personnes éco-anxieuses ?
D'une manière générale, les gens ne se sont pas présentés de cette manière-là à moi. Par contre, j'ai beaucoup croisé de gens super sensibles à ces questions environnementales, de l'avenir de la planète. Et ces personnes-là, souvent, elles étaient d'une énergie débordante, assez impressionnante pour s'engager, se mettre en mouvement, en action. Et du coup, sans doute, c'est un moyen pour ne pas sombrer. Par rapport à l'urgence des enjeux.
Une deuxième question, encore pour toi. Je suis avec toi à l'atelier du jardin, et donc j'aurais voulu savoir si toi-même tu es éco-anxieuse.
Vaste question. Je n'ai pas été diagnostiquée, mais voilà, je suis inquiète. Ça, c'est certain, je suis très inquiète. Mais être inquiet, ça ne sert à rien. Donc du coup, j'essaie plutôt de faire ce qu'on fait à l'atelier jardin, je crois, admirer, s'émerveiller devant le vivant, les plantes, le printemps, là, c'est magnifique, les fleurs, les couleurs. Mardi, on a accueilli une sauge de Jérusalem et on a regardé ces petites pétales jaunes, voilà. Et du coup, s'émerveiller devant le vivant, bah, c'est aussi voir la nature... qui est là, qui est belle, qui s'offre à nous. Et parce qu'on y est sensible, on a envie d'en prendre soin.
Et puis même les odeurs, les couleurs.
Oui, ça éveille tous les sens, effectivement.
Voilà, ouais, c'est ouais. Ça. Comment agis-tu face à une personne anxieuse ?
Ben, par rapport à une personne anxieuse, je pense qu'on peut déjà essayer de se mettre à l'écoute. On peut l'accueillir, l'écouter par rapport à son anxiété. Et puis peut-être qu'on peut... Moi, je lui proposerais de faire quelques exercices de respiration pour retrouver un petit peu de calme dans son corps. Et puis, je sais pas, j'ai le sentiment que par rapport à l'anxiété, parfois, il faut vraiment se mettre en action, se mettre en mouvement, proposer une activité, proposer quelque chose, même avec le corps, pour sortir des ruminations mentales, quoi.
Puis en fait, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les couleurs, la matière vivante, parce que la Terre, c'est une matière vivante. Il y a des animaux, il y a des insectes, il y a tout ça. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier avant tout, c'est que c'est notre moment à nous tous.
Oui, ouais, c'est l'espace de vie pour chacun. Et puis, c'est ramener aussi un peu comme on est tout petit par rapport à cette immensité du monde et l'immensité du vivant, quoi. Comme on est peu de choses et puis comme... quand je réfléchissais à tout ça, justement, je voyais aussi la puissance du vivant. Et ça qu'on admire et qu'on voit aussi dans notamment les activités de jardinage, quoi. C'est assez impressionnant d'une toute petite graine qu'on va poser comme ça sur la terre. Et puis paf, on ne sait pas pourquoi, comment celle-ci, elle va germer, grandir, pousser et puis amener à nouveau des fruits et nous servir parfois parce qu'on peut le manger. Se faire plaisir, goûter.
Signe aussi des fois, on croit que qu'elle va pas repartir. Et en fait, c'est tellement énorme. En fait, c'est là, cette sensation-là, tu sais, hop, elle revit.
Oui, c'est la magie ou l'inattendu du vivant qu'on croit parti et puis qui repart. Comme après l'hiver, quand l'hiver tout est presque mort, on a l'impression, on a ce sentiment-là. Et puis d'un coup, d'un seul, là, les jours rallongent et puis paf, il y a les petits bourgeons, les premières fleurs. Et puis ça redémarre, et puis c'est fulgurant.
Et la vie. La vie, en fait. La vie, c'est la vie. Les défis, les joies, les peines.
Le cycle.
Ouais, voilà. Il y a plein d'autres choses tellement à dire sur notre moment, en fait, que voilà, il faudrait peut-être en prendre un peu plus soin chaque jour. Faire chacun ce qu'on doit faire, en fait. C'est chacun notre rôle, quoi.
Oui, ou ce qu'on peut faire.
Voilà.
Comme on est, au moment où on est, oui.
Voilà. À son niveau.
Oui, chacun à son échelle, on a un rôle à jouer. Ouais.
Voilà, c'est ça en fait qu'il ne faut pas oublier, je pense.
Tout à fait, je partage.
Eh bien, merci d'avoir accepté d'être parmi nous cet après-midi, Blandine.
Merci à toi, James.
Et puis, moi, je tiens à te remercier infiniment pour ce que tu fais, toi et ton équipe, le Sage, Alf41. Merci à vous. On passe à la deuxième partie de l'émission, la santé mentale n'est pas un gros. Sur le thème de l'éco-anxiété. C'est parti.
La santé mentale n'est pas un gros mot. La santé mentale n'est pas un gros mot. La santé mentale n'est pas un gros mot.
Alors, en guise de micro-trottoir, nous sommes allés rencontrer les étudiants du lycée agricole de Vendôme.
Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve au campus du lycée agricole d'Arène à côté de Vendôme et on se retrouve avec Fabien qui est professeur du lycée agricole, Clara et Chloé qui répondent à nos questions aujourd'hui autour de l'éco-anxiété. Alors vous êtes étudiantes toutes les deux en BTS GPN, est-ce que déjà vous pouvez juste nous expliquer ce que ça veut dire ?
Alors le BTS GPN c'est gestion et protection de la nature, donc pour protéger la nature plus tard.
Ok. Merci. Je passe la main à Laurent, du coup, qui a préparé quelques petites questions.
Bonjour, je m'appelle Laurent. J'ai quelques questions à vous poser concernant l'éco-anxiété, car c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Vous sentez-vous anxieux face au changement climatique ?
À l'heure actuelle, je ne pourrais pas me dire que je me sens anxieuse, mais ça m'inquiète quand même de voir tous ces changements climatiques, les inondations, les montées de chaleur, la neige, alors qu'en temps normal, c'est des choses qu'on avait relativement peu auparavant.
D'accord.
Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis anxieuse face au changement climatique, malgré que j'ai pu assister notamment à un gros orage de grêle il y a quelques années, lorsque j'étais dehors. Mais pour l'instant, on voit énormément de choses à l'actualité, notamment. C'est parfois assez accentué et cela peut provoquer de l'anxiété, notamment chez beaucoup de personnes. Mais moi, pour le moment, je ne me sens pas vraiment anxieuse par rapport à cela.
Alors, c'est pas vraiment de l'anxiété, c'est plus de la préoccupation en fait pour nos jeunes qui risquent quand même de se retrouver un petit peu confrontés à des situations climatiques. Puis pour eux, lorsqu'ils feront construire, etc., c'est quand même assez préoccupant. Puis on est sur nous là dans des métiers de l'agriculture et on voit bien les impacts que ça peut avoir au quotidien dans nos vies de citoyens et dans leur vie professionnelle.
Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez entre vous ou dans les cours ou les stages ?
Ça a pu arriver, mais c'est vraiment pas un sujet qui est présent quotidiennement en fait. On peut en parler avec les enfants, par exemple en animation, mais c'est très rare en fait, malheureusement.
Malheureusement. Parce que je pense que c'est intéressant quand même.
Bien sûr, il faut en parler puisque le climat de demain est important parce que demain on sera encore là.
Donc bien sûr.
Il faut préserver tout ça.
Alors, est-ce que cela impacte vos projets futurs ?
À l'heure actuelle, je ne pourrais pas dire oui ou non. Je ne pense pas, mais de toute façon, on va tous être impactés à un moment ou à un autre puisque bah, les fortes chaleurs vont modifier notre temps de travail, les temps où il fait de la neige, on va être amené potentiellement de devoir changer notre mode de déplacement pour aller se rendre au travail, en stage. Donc, ça va être compliqué.
Donc dans le cadre du BTS, mais d'un certain nombre d'autres diplômes, en fait, tout ce qui va être sensibilisation à l'environnement, au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, c'est des notions en fait, que l'on développe auprès de nos étudiants. Donc c'est vraiment des éléments qui sont importants pour nous. C'est vrai que quelque part, malheureusement, je serais tenté de dire, pour en fait évoquer ces changements climatiques, cette érosion de la biodiversité, je dirais que nous, dans nos cours, éventuellement, c'est peut-être nous qui, quelque part, en voulant les sensibiliser, génèrent chez les générations futures une certaine anxiété. Mais notre objectif, à nous, enseignants, c'est aussi en fait de leur donner des clés pour changer les choses, puisque dans le cadre de leur formation en BTS-GPN, l'objectif, c'est de former des futurs, déjà des éco-citoyens et éco-citoyennes engagés. Et là, Chloé et Clara sont des étudiants déjà très engagés au quotidien. Et donc, en fait, l'idée dans nos formations, c'est vraiment de leur donner les clés pour agir à leur niveau, puisqu'en fait, on se retrouve confronté à des gouvernants qui sont quand même... ils font preuve d'une certaine cécité. On voit apparaître, par exemple, aux États-Unis, en fait, une remise en cause des sciences et d'un certain nombre de connaissances que l'on avait, et ce qui est relativement grave. Donc, c'est vrai que nous, enseignants en matière scientifique, on est là, en fait, pour leur donner un certain nombre de clés pour pouvoir agir au quotidien et faire en sorte qu'eux aient une influence sur les générations futures, puisque ce sont eux, en fait, qui vont pouvoir agir au quotidien, dans leur futur métier d'animatrice, de gestionnaire d'espaces naturels.
Dans l'immédiat, je ne pense pas. Après, moi, je vais me diriger dans la protection de la faune. Donc, après, il peut y avoir des changements au niveau de la faune, notamment l'érosion de la biodiversité, bien sûr. Notamment sur les flux migratoires, la dispersion aussi des espèces. Pour le moment, non, je ne pense pas que ça puisse impacter... dans les années à venir, notamment dans les 10 prochaines années. Après, au-delà, je ne pourrais pas répondre. En fait, c'est à voir avec l'évolution.
Juste, je discutais avec une amie qui est psychologue en libéral et elle me disait, par exemple, que dans les jeunes qu'elle recevait, elle n'avait pas forcément des jeunes qui parlaient d'éco-anxiété en tant que... qui ne prononçaient pas ce mot-là. Mais elle disait qu'elle avait beaucoup de jeunes qui avaient du mal à se projeter dans 20 ans ou dans le fait, par exemple, d'avoir des enfants ou des choses comme ça. Est-ce que vous, à votre âge, vous vous dites, vu que vous êtes un peu plus sensible, je pense, à la cause environnementale que la plupart des jeunes lambda, est-ce que vous avez un peu des craintes par rapport à ça ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, par exemple, moi, je ne veux pas d'enfants parce que je ne sais pas dans quel monde je vais les élever, enfin, des choses comme ça. Est-ce que ça vous impacte ?
Aujourd'hui, j'avoue que moi, je vis souvent au jour le jour. Donc, là où ça mène, les opportunités que j'ai. Après, me projeter dans l'avenir, pour l'instant, surtout au niveau des enfants, les choses comme ça, j'ai pas encore vraiment réfléchi. Après, oui, c'est sûr qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est quand même qui connaît un grand bouleversement quand même, même au-delà du changement climatique. Donc là, je pourrais pas m'avancer là-dessus, du moment pour moi.
Alors moi, concernant cette question, je me la suis posée beaucoup de fois. Effectivement, à l'heure actuelle, je ne souhaite pas avoir d'enfants quand je vois le monde dans lequel on vit. Ça commence à devenir de plus en plus compliqué dans beaucoup de secteurs. Il y a beaucoup moins d'emplois. La planète, avec le changement climatique aussi, ça devient compliqué. L'économie, elle devient compliquée. La vie est relativement chère. Donc, tout ce qui est environnemental avec nos enfants, plus tard, ça va être compliqué. Donc, moi, le fait de ne pas avoir d'enfants, ça me traverse l'esprit relativement souvent.
Moi aussi, je pense que vraiment, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Juste, je me dis, mais si j'ai un enfant, qu'est-ce qui va lui arriver plus tard ? Déjà, moi, j'imagine même pas ma vie dans quelques années. Je me dis, mais combien de temps on va encore survivre sur cette planète comme ça ? Et je me dis, est-ce que j'ai envie de leur faire vivre quelque chose ? Et même si des fois, j'ai essayé d'être positive en me disant, bah, peut-être que je vais réussir à les éduquer avec quelque chose qui me tient à cœur, avec des valeurs qui vraiment me correspondent. Mais je me dis, est-ce que ça va durer, est-ce que je vais pas juste les mettre devant le fait accompli comme ça et se retrouver à pas savoir quoi faire quoi.
Moi c'est tout pareil et puis déjà quand je pense à quand je vais être âgée, je me dis comment va être le monde et puis donc je me dis que quand j'aurai mes enfants ça sera encore pire que ce qu'on va avoir nous plus tard, donc pareil, moi j'y ai déjà pensé mais pour l'instant je sais pas trop si j'aimerais en avoir pour ça aussi, pour cette raison.
Vous vous préparez dans vos études à accueillir des publics scolaires, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet dont il faut parler dans le cadre de vos futures interventions ?
Alors moi, je peux dire, j'ai fait un stage du coup de 3 mois en animation, donc dans le cadre de mon BTS. J'ai évoqué le sujet qu'une seule fois. Donc c'était surtout sur le réchauffement de la planète, avec comment fonctionne la couche d'ozone, le réchauffement, etc. C'était au niveau de jeunes, notamment de mon âge. Ça les a quand même marqués. Mais après, sinon, oui, c'est un sujet qu'il faut évoquer quand même avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et l'évolution du climat. Enfin, moi, je pense qu'il faut en parler un minimum, même suivant les thématiques. On peut, au niveau de l'alimentaire, au niveau de la faune, au niveau de l'eau, on peut en parler dans multiples thématiques. Et c'est toujours une petite partie qu'il faut prendre en compte.
Comme Chloé, je pense qu'il faut en parler puisque les générations auprès desquelles on fait des animations, c'est les futures générations de demain et c'est eux qui vont potentiellement pouvoir faire bouger les choses. Donc il faut en parler, mais pas forcément aux jeunes enfants de 3-4 ans parce qu'ils peuvent apprendre peur et avoir du mal à comprendre. Il faudrait sensibiliser à peu près tout le monde, mais accentuer le sujet au niveau des plus âgés, des 15-25 ans, quoi.
L'importance de toute manière de l'éducation, que ce soit pour nos étudiants, le fait de faire de l'animation nature, de faire de l'éducation, de la sensibilisation à l'environnement, c'est important. Les jeunes enfants, quand ils font des interventions dans les classes primaires, c'est des éponges. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à leur expliquer un certain nombre de choses sans être non plus moralisateur pour leur faire comprendre que eux, à leur petit niveau, ils peuvent arriver à changer les choses, puisque si on s'y met à plusieurs millions, on peut arriver, à milliards, on peut arriver à faire chacun. C'est la parabole du colibri de Pierre Rabhi. C'est important d'arriver à faire changer les choses chacun à son niveau. Donc voilà, pour moi, c'est important d'arriver à éduquer les jeunes générations, à leur donner, et puis c'est pareil, de leur passer aussi le flambeau. En termes de protection de l'environnement au quotidien. C'est des petits gestes qui font qu'on peut changer les choses, je pense. Les motiver pour. Il voilà. Faut qu'ils arrivent, même s'il y a cette éco-anxiété, il faut arriver à ne pas se résigner. On peut arriver à changer les choses. Je lisais, il n'y a pas très très longtemps, là, une chronique du rédacteur en chef de La Salamandre, Julien Perrault, qui justement parlait d'éco-anxiété et qui disait que justement l'important de communiquer auprès de leurs lecteurs, d'éduquer, de faire changer les mentalités et d'évoluer et que ça fonctionne. Il ne faut pas attendre de nos gouvernants qu'ils fassent quelque chose à notre place. Il faut que nous, on soit moteur.
Et puis moi je rajouterais aussi que c'est aussi beaucoup de méconnaissance en fait. Moins on a de connaissances sur un sujet et moins on a envie de s'impliquer dedans et de protéger tout simplement ce qu'on connaît en fait. Et du coup bah, forcément on se retrouve avec des gens qui négligent parfois des choses qui sont tellement essentielles pour nous et on se dit bah, peut-être que c'est juste parce qu'ils sont pas assez sensibilisés justement.
Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Non, moi je veux bien juste rajouter le fait que des fois je me sens vraiment seule. J'ai l'impression que bah, vraiment je suis seule dans ce monde-là à me dire est-ce que je vais réussir à changer les choses avec ce que je fais dans mon quotidien, que ce soit en faisant attention à manger des choses bio, je sais pas. J'essaye de tout faire pour réduire mon impact sur la planète et tout ça, mais des fois je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que juste je suis en train d'être une toute petite fourmi sur une immense montagne. Et du coup je me dis, j'aimerais bien juste réussir des fois à trouver des gens qui sont comme moi et pouvoir discuter avec eux sans forcément être tout le temps dans l'anxiété comme moi je suis aujourd'hui en tout cas.
Eh bien, merci pour cette interview et puis bonne continuation.
Merci
chers
beaucoup.
Auditeurs, nous espérons que cette émission vous aura fait passer un bon moment et que vous aurez appris des choses et que vous aurez pris le temps de poser votre tête. On fait une petite pause cet été, mais vous pourrez nous retrouver en rediffusion sur Studio Zef et toujours en podcast à tout moment sur le site de Studio Zef. On se quitte là-dessus. N'oubliez pas que vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse suivante gem41@alve.fr. On se retrouve très vite, les lundis à 13h sur Studio Zef, fréquence 91.7 à Vendôme et 91.1 à Blois, et en podcast sur studiozef.fr.
À bientôt.
À bientôt. Bye bye. Ciao.
Bonnes vacances.
Post-à-tête, l'émission qui laisse passer la lumière.
Post-à-tête. C'est l'émission qui laisse passer la lumière.
Qui laisse passer la lumière.
Post-à-tête.
Post-à-tête, c'est l'émission qui laisse passer la lumière.